vue d'ensemble de l'actualité.
That was a well-fought battle. We did a great job. And frankly, to say it one time again, and I say it all the time, there was no collusion. I didn't know the president. There was nobody to collude with. There was no collusion with the campaign.
Avec Louis Lacroix.
13h presque 34 minutes, on va aller joindre Donald Cucciolletta qui va nous parler des nouvelles internationales pour les au moins les deux prochaines semaines. Bonjour Donald.
Bonjour Louis.
Alors évidemment aujourd'hui, ce dont on parle beaucoup, c'est ce sommet Trump-Poutine à Helsinki en Finlande qui a pris fin tout à l'heure. Puis l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, c'est Donald Trump dire qu'il n'y avait jamais eu de collusion finalement avec les Russes dans l'élection de 2016.
Effectivement, même Ron Rothenstein, le deuxième numéro 2 au département de la justice, a dit la même chose aussi quand il a dévoilé les 12 accusateurs, les 12 accusations contre 12 espions, 12 Russes. Mais ils n'ont pas trouvé encore. La question, c'est de trouver finalement s'il y a eu collaboration entre l'administration Trump, mais directement avec les gens qui l'entourent, comme M. Trump lui-même. C'est ça qu'il faut qu'il prouve. Et c'est pour ça qu'on attend toujours le rapport de Robert Mueller.
Ouais.
Et c'est le rapport de Robert Mueller, les 3000 pages sûrement qui vont avoir écrit, qui va dévoiler toutes ces choses-là, oui ou non. Puis là, à ce moment-là, on verra qu'est-ce qui va arriver avec le département, avec le Congrès vis-à-vis ça. Mais pour l'instant, on attend toujours. Moi, en tout cas, personnellement, j'attends toujours le rapport de Robert Mueller.
Bon, mais pourquoi est-ce que c'était si important de faire ce sommet-là entre Donald Trump et Vladimir Poutine?
Mais si on regarde sur le plan objectif, il faut le dire, peu importe qu'on a des différends avec la Russie, peu importe que finalement on considère que la Russie n'est plus une démocratie, et évidemment les agissements de Vladimir Poutine depuis qu'il est au pouvoir, il faut dire quand même que les États-Unis et la Russie, à eux deux, contrôlent 90% des armes nucléaires sur la planète.
Ouais.
Et la Russie, depuis le venu de M. Vladimir Poutine au pouvoir, s'est réarmée avec les armes les plus sophistiquées, aussi sophistiquées que les États-Unis. Donc, s'il y a lieu, jamais, on ne l'espère pas, confrontation, ça va être entre ces deux-là. C'est eux, les deux superpuissances sur le plan nucléaire, beaucoup plus que la Chine, beaucoup plus que Kim Jong-un.
Oui.
Donc, sur ce plan-là, ne serait-ce de se rencontrer puis de discuter, voir comment on peut contrôler, et puis peut-être recommencer finalement une discussion d'abaisser les armes nucléaires dans les deux pays. Ça, c'est l'autre chose aussi, il ne faut pas oublier que les États-Unis, depuis qu'ils ont travaillé très fort pour mettre Boris Yeltsin au pouvoir en Russie, les Américains ont beaucoup d'intérêt aux États-Unis, investissement aux États-Unis, surtout ExxonMobil. Et ExxonMobil, si vous allez en Sibérie, vous allez voir toutes les plateformes d'ExxonMobil sont tous là. Ça, c'est sur l'époque de Boris Yeltsin. Donc, les intérêts économiques, toute la question du pétrole, etc. Donc, il y a des raisons à partir des intérêts de M. Trump et des intérêts de M. Vladimir Poutine pour voir s'il n'y a pas moyen de peut-être se rapprocher. Et vous avez rappelé au G7, il avait dit peut-être M. Poutine devrait être au G8.
Ben oui.
Puis si on regarde sur le plan international, puis si on veut tenter autant que possible de garder une certaine administration sur le plan international de la part de les G7 et les G8, objectivement, M. Poutine, il faut qu'il soit là. Parce que c'est quand même une puissance importante qui est revenue une puissance qui amène large, évidemment, puis qu'effectivement, font des gestes qu'il faut condamner, comme la Crimée, l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine, etc. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que durant toute l'époque où les États-Unis étaient vraiment maîtres de la planète, ils rencontraient n'importe qui, hein, quand ça sert à leurs intérêts. Puis c'est la même chose encore aujourd'hui. Puis moi, je reviens toujours à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, M. Franklin Delano Roosevelt s'est assis à quelques reprises avec Joseph Staline. Écoutez, là, tu sais, fait que finalement, c'est peut-être la situation objective sur la planète. Puis, l'autre question, c'est la Syrie. Soyons clairs, si jamais un jour, puis j'ai l'impression que ça va arriver un jour que M. Bachar al-Assad ne sera plus là, c'est qui va le déloger? Ça va être les Russes.
Ouais.
Et s'il y a lieu à voir reconstruire le Moyen-Orient, parce qu'après la guerre civile, il faut reconstruire le Moyen-Orient, qui va le faire avec les États-Unis, la Grande-Bretagne ou d'autres? Ça va être les Russes. Ils ont intérêt, là. Ils ont des intérêts, là.
Ouais.
Donc, il y a tout ça qui joue. Bon, est-ce que c'est de ça qu'ils vont parler de A à Z? Probablement pas. Mais moi, je me dis, objectivement, peu importe que ce soit Donald Trump ou un autre président, il faut qu'il rencontre les gens qui dirigent la Russie présentement.
Ouais. Bon, parlons un peu de l'Afrique du Sud, parce que il y a quand même un anniversaire symbolique. C'est le oui. Ce serait le 100e anniversaire de naissance du héros, je dirais, national de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela.
Oui, Nelson Mandela, qui est venu à Montréal, d'ailleurs. La première ville à visiter quand il est sorti de la prison, c'était à Montréal.
Ben Brian Mulroney avait joué un rôle quand même assez important.
Absolument, parce que c'est lui-même qui avait convaincu Mme Thatcher de commencer les pourparlers. Avec le Sud, puis d'enlever les boycottages, parce qu'il y avait des boycotts qui se faisaient. Et là, M. Mulroney avait dit à Mme Thatcher, il faut arrêter ça, il faut faire, au contraire, une diplomatie pour voir le changement de régime. Et effectivement, donc M. Mulroney a eu ça, et le maire de Montréal, à l'époque, avait invité, parce que Montréal avait pris position comme ville internationale, dire que nous soutenons finalement la lutte de Nelson Mandela contre l'apartheid. Donc, lui, il voulait saluer ça. Et ben moi, j'étais là au Champ de Mars, puis par la suite, mais effectivement, on a été invité à le rencontrer, puis lui donner une poignée de main dans une ligne, là. Oui, effectivement, Nelson Mandela.
Ah oui, t'as serré la main de Nelson Mandela, quand
oui,
même.
Absolument, oui. Ben, c'est parce que moi, avec d'autres personnes ici à Montréal, on se battait pour, effectivement, éliminer l'apartheid, puis on était en contact avec le ANC, puis le PAC, à l'époque, Pan-African Congress, qui, autres, avaient un bureau aux Nations Unies. Puis quand il venait faire des discours, mais il venait à Montréal.
Ah oui,
il y avait tout ce lien-là qui jouait sur le plan international.
Ah bon?
Qui fait que c'était ça, oui. C'est vraiment un mouvement international qui a aidé pour libérer Nelson Mandela, puis effectivement de déconstruire l'apartheid dans l'Afrique du Sud.
Quelle importance il va garder? Ce sera, même 5 ans après sa mort, ça demeure une icône mondiale, Nelson Mandela, quand même.
C'est non seulement une icône pour l'Afrique du Sud, qui est tout à fait compréhensible, mais c'est une icône mondiale, parce que lui avait dit, si le 21e siècle, les peuples ne se rencontrent pas puis qu'ils discutent pas, le 21e siècle, ça va être un siècle de désastre. Je me rappelle, il avait dit ça avant sa mort. Donc, pour lui, le 21e, c'était vraiment la rencontre des peuples. C'était vraiment la paix dans le monde. Puis quand on voit les premières décennies de la 21e siècle, c'est pas dans cette direction-là qu'on va présentement, malheureusement.
Ouais.
Donc, Mandela reste toujours... puis nommez-moi un leader dans le monde aujourd'hui qui avait les capacités, qui avait la générosité, qui avait l'honnêteté de Nelson Mandela.
Non, effectivement, on a beaucoup parlé aussi de la sagesse de toutes ces décisions.
Absolument.
Nelson Mandela prenait rarement de mauvaises décisions.
Tout à fait.
Et réfléchissait beaucoup, puis avait un jugement qui est qualifié d'exceptionnel, en fait.
Il y a des lettres qui sont en prison qui vont être publiées présentement.
Oui,
je pense que ça a déjà fait, puis ça vaut la peine de lire ça, parce qu'on voit à travers, moi j'ai lu quelques lettres qui ont été imprimées dans le New York Times, et c'est clair qu'effectivement, lui pensait toujours aux autres. Il a même appris l'Africana en prison pour pouvoir parler à ses gardiens de prison.
Oui, exactement, parce qu'il disait quand on parle, quand on parle pas dans la langue des gens, on parle à leur tête, et lui, il disait qu'il voulait parler à leur cœur, donc il avait appris la langue.
Exactement.
Ouais.
Donc, vous voyez, c'est compréhensible. Donc, aujourd'hui, on peut utiliser ça comme exemple aussi, non?
Oui, exactement. Alors, là, c'est le 100e anniversaire. Je pense qu'il y a d'immenses célébrations qui vont être faites en Afrique du Sud.
Absolument. Ça veut dire que c'est le fondateur, on peut dire, Nelson Mandela, de l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique moderne, l'Afrique libre, l'Afrique démocratique aussi.
Oui, il ne faut jamais oublier qu'il a passé 27 ans en prison quand même.
Oui, à Rhode Island, qui n'était pas...
sans avoir commis
prison,
un seul crime.
C'est-à-dire que c'est le cachot, quasiment, qui a semblé un cachot du 19e siècle.
Oui. Puis Winnie Mandela, à l'époque, était gardée, elle était dans une cage, vous allez dire, peut-être un peu plus dorée, là. Mais elle ne pouvait pas sortir non plus, était sous surveillance.
Non plus, non sûr, mais Becky aussi, puis plusieurs autres. Non. C'était une époque qui a marqué l'histoire de l'Afrique du Sud, l'histoire du monde aussi. Donc, non. Écoutez, on a un peuple qui a vécu... on parle beaucoup de la ségrégation raciale aux États-Unis, mais eux qui ont vécu quasiment 100 ans d'apartheid. Là.
Exact.
C'était inouï, ces choses-là.
On a quelques secondes pour parler de la Syrie. En fait, Bachar al-Assad avance, gagne gagne du terrain, n'est-ce pas?
Ah oui, il garde du terrain, puis ça, disons qu'on peut dire que pour l'Israël, ça devient quelque chose d'inquiétant pour eux, parce qu'on sait que historiquement, on peut le dire, même si on sait que la première ennemie présentement de l'Israël, ça doit être les Palestiniens, puis le conflit palestinien-israël, mais l'autre, c'est la Syrie, sachant très bien que la Syrie a déjà occupé une partie du Liban, elle contrôle les affaires du Golan, donc à quelque part, l'Israël regarde tout ça, puis sachant très bien qu'Israël a été capable de trouver les fameux documents secrets de l'Iran sur la connivence entre l'Iran et la Syrie, et aussi le développement de l'arme nucléaire, vous voyez finalement le triangle qui est en train de se créer au Moyen-Orient, donc c'est très, très, très... Donc, s'il en parle, l'importance de Trump avec Poutine, parler de tout ça. Là.
Exactement. Donald, on va reparler probablement demain, de toute façon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Au revoir.
Au revoir, Donald Cucciolletta, qui va passer les deux prochaines semaines avec nous pour parler Nouvelles Internationales.